Vous écoutez On lit pour vous.
Faire de l'éducation à l'argent un jeu d'enfant. Un texte de Camille Dauphiné-Pelletier, paru le 24 novembre 2024 dans la presse. Presque 75% des Québécoises et Québécois âgés de moins de 35 ans estiment ne pas disposer de toutes les connaissances pour planifier correctement leur avenir financier, selon un sondage de l'Institut de planification financière. Vous aimeriez éviter que ça arrive à vos enfants? Voici comment mettre toutes les chances de leur côté. Au primaire, un conseil qui revient toujours quand il est question d'éducation financière et d'enfants, c'est de ne pas faire de l'argent un sujet tabou et d'en parler même avec les plus jeunes. Est-ce vraiment le rôle des parents de parler d'argent? Il semble que oui. Selon un sondage réalisé par Éduqu'Épargne, 55% des travailleurs de 25 à 64 ans identifient leurs parents comme étant les personnes qui les ont le plus influencés dans la gestion de leurs finances personnelles. Le primaire est un bel âge pour commencer à parler d'argent. Avant, il est un peu tôt. C'est surtout à partir de la deuxième année, vers 8 ans, qu'ils vont comprendre le sens concret de l'argent et faire des liens avec leur cours de mathématiques, indique Nathalie Parent. On peut alors décider d'offrir à son enfant ou de bricoler avec lui sa première tirelire, dans laquelle il pourra accumuler les quelques dollars provenant de ses parents et de ses grands-parents, ou même de la fée des dents. Évidemment, les jeunes enfants saisissent mieux des concepts comme les limites et les choix lorsque ces derniers sont illustrés par des cas concrets. L'exemple classique. Accompagner son enfant au dépanneur avec un budget de 5 $ et le laisser choisir pour 5 $ de bonbons. S'il arrive avec 6 $ de friandises, c'est non, il doit faire une autre sélection. L'enfant va faire des essais et erreurs, mais il va comprendre qu'il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut, explique Louis-Alexandre Lacoste, directeur général d'Éduqu'Épargne. C'est aussi un bel âge pour apprendre à faire la différence entre les besoins et les désirs, pour comprendre que les premiers, nourriture, maison, vêtements, passeront toujours avant les seconds, cadeaux, voyage. D'ailleurs, le Musée de la Banque du Canada propose sur son site Web une activité éducative pour les enfants de 5 à 8 ans pour aborder ce sujet. Au fur et à mesure que l'enfant vieillit, on peut ajouter de nouvelles notions. Au magasin, il peut nous aider à déterminer lequel des deux produits coûte le moins cher en lisant les étiquettes. On peut lui expliquer pourquoi on choisit un article plutôt qu'un autre, le concept d'une promotion ou encore la méthode de paiement que l'on utilise. Jason Leung, vice-président chez De Champlain Groupe Financier, a toujours tenu à expliquer les grands mécanismes économiques à ses enfants, même lorsqu'ils étaient tout jeunes. Par exemple, dit-il, je leur explique que la ville paie l'éboueur qui vient récupérer les ordures, le déneigement ou encore la plantation des fleurs dans le quartier par de l'argent qui provient de nos taxes. Je trouve ça intéressant de conscientiser les enfants à la façon dont l'économie fonctionne. Si certains estiment que le primaire est trop tôt pour parler d'épargne avec les enfants, ce n'est pas son cas. Il a toujours encouragé les siens à mettre 10% de leur argent de côté pour des projets futurs. Un petit boulot dès le primaire. L'âge minimum pour travailler au Québec est de 14 ans, mais il y a quelques exceptions. Par exemple, avec l'autorisation de ses parents, un jeune peut livrer des journaux, garder des enfants de façon occasionnelle ou encore faire du tutorat. Certains enfants manifestent l'envie de travailler à un très jeune âge. Certains ont le goût d'avoir des sous, sont très physiques, veulent aller aider. Pourquoi pas? Ça peut être très valorisant d'aider à déneiger l'entrée du voisin ou de la famille avec un montant associé, remarque Nathalie Parent. Il faut cependant veillez à ce que l'enfant ne le fasse que s'il en a réellement envie. Vous écoutez « Faire de l'éducation à l'argent un jeu d'enfant », un texte de Camille Dauphinet-Pelletier, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse. L'adolescence. Si ça n'a pas déjà été fait au primaire, l'entrée au secondaire est un bon moment pour commencer à intégrer la notion d'épargne. On peut, par exemple, identifier avec l'enfant un objectif qui l'intéresse, comme l'achat d'un jeu vidéo, puis calculer avec lui combien d'argent il faut mettre de côté pour en faire l'acquisition et combien de temps ça lui prendra pour y arriver. C'est le concept de bénéfice différé. Tu sais que tu vas l'avoir, mais tu ne l'auras pas tout de suite, nous dit Louis-Alexandre Lacoste, directeur général d'Éduc Épargne. Les enfants atteignent à 14 ans l'âge légal du travail. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une bonne idée de les pousser à obtenir un emploi, ni même de petits contrats chez des proches ou au domicile familial. La priorité reste les études. Et c'est surtout si l'enfant est très motivé et enthousiaste qu'on devrait l'y encourager. Si ça devient un combat chaque fois, qu'on est constamment derrière eux, qu'on doit les pousser à faire la tâche, ça peut devenir lourd à la fois pour le jeune et le parent. On ne veut pas qu'il développe des associations négatives avec le travail, indique Nathalie Parent. Un travail égale un budget. Entre 16 et 18 ans, plusieurs adolescents commencent à travailler de façon plus régulière. La réception du premier chèque de paye est une excellente occasion de s'asseoir avec son enfant pour lui apprendre à lire et à comprendre ce document, souligne Louis-Alexandre Lacoste. D'ailleurs, quand on passe sur les diverses déductions, ça peut être intéressant d'expliquer à son enfant où s'en va cet argent. Avec un salaire minimum de 15,75 $ l'heure et très peu de dépenses, l'enfant peut accumuler rapidement quelques milliers de dollars. C'est un bon moment pour aborder la notion de budget, pour lui permettre de comprendre d'où vient son argent et où il va. Plusieurs outils numériques gratuits permettent de faire un budget. C'est souvent autour de cette période qu'on peut encourager les enfants à mettre 10 % de leurs revenus dans un compte épargne pour favoriser la prise de cette habitude. Mais attention, à moins d'avoir un enfant qui s'intéresse particulièrement au sujet, ce n'est pas nécessaire d'entrer dans une planification à long terme. En bas de 18 ans, ce n'est pas tant le temps de parler de planification de retraite ou d'achat de maison. Quand ce n'est pas dans le quotidien des jeunes, ça coule comme de l'eau sur le dos d'un canard, remarque Louis-Alexandre Lacoste. Chaque individu est un cas différent, et on connaît nos enfants. Certains vont identifier très vite ce qu'ils veulent faire de leur vie, tandis que d'autres ne le sauront toujours pas à 25 ans. Il faut donc garder ça simple, mais insister sur ce à quoi il faut faire attention. Par exemple, l'importance d'avoir un fonds d'urgence ou encore raconter des histoires concrètes pour les sensibiliser, souligne de son côté Jason Leung. Un exemple d'histoire concrète? Jason Leung évoque celle d'une famille dont le réfrigérateur cesserait subitement de fonctionner. Si celle-ci a un fonds d'urgence, le problème peut rapidement être réglé, mais si elle n'en a pas, tout se complique. Ce genre de scénario simple permet d'ancrer les différents principes dans la mémoire des enfants. Cela dit, s'ils sont intéressés par les investissements, Jason Leung suggère de sauter sur l'occasion pour les accompagner là-dedans, étant donné l'impact sur le long terme que peuvent avoir des investissements faits à un si jeune âge. Il y a un potentiel de croissance immense. Mais s'ils veulent juste coller leur argent dans un compte d'épargne et ne pas investir, c'est correct. Ils ne sont juste pas rendus là, estime-t-il. Le début de l'âge adulte. À la fin des études secondaires, plusieurs adolescents travaillent, envisagent des achats plus importants et se prépare à quitter le nid familial. On peut alors entrer dans des connaissances plus avancées, mais toujours concrètes, qui pourront leur être utiles pour éviter de coûteuses erreurs. Dès 18 ans, ils pourront se procurer une carte de crédit. Jason Long souligne que c'est une bonne idée de leur recommander de ne pas dépasser une limite de 500 $ au départ, le temps de s'habituer à utiliser cet outil. La mécanique des intérêts et ce qu'ils coûtent doit faire partie de la discussion dès que possible. C'est important qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils la remboursent au complet chaque mois et d'aborder le sujet de l'hyperendettement qui fait partie de nos vies. Avant, les gens finançaient essentiellement deux choses, une maison et une auto. Maintenant, tu peux financer un micro-ondes, souligne Jason Long. L'obtention d'une première carte de crédit est aussi un bon moment pour les mises en garde liées aux arnaques en ligne, notamment en aidant notre adolescent à déterminer si un site transactionnel est crédible. On peut aussi le sensibiliser au fait qu'un usage judicieux de sa carte de crédit lui permettra de développer une bonne cote de crédit qui lui sera utile tout au long de sa vie financière. L'inscription à des études postsecondaires vient avec des frais d'inscription, l'achat de matériel et l'accès au programme d'aide financière pour étudiants. C'est un excellent moment pour aider votre enfant à démêler les aides gouvernementales et ce qu'elles impliquent, tout comme le fonctionnement des marges de crédit que proposent certaines institutions financières aux étudiants. À cet âge, le jeune a-t-il plus à se soucier de faire un budget ou d'investir de l'argent? Tout dépend de son style de vie. S'il doit déménager en appartement et acheter une voiture pour étudier, il risque d'avoir plutôt besoin d'aide pour budgéter. Mais s'il reste au domicile familial et qu'il travaille, c'est peut-être sur le plan de l'organisation de son épargne que vous pourrez être le plus utile. Vous écoutez « Faire de l'éducation à l'argent un jeu d'enfant », un texte de Camille Dauphinet-Pelletier paru le 24 novembre 2024 dans la presse. Peu importe la facette que vous abordez, Louis-Alexandre Lacoste a deux recommandations. D'abord, livrez un message simple et clair en vous concentrant sur les notions les plus fondamentales. Puis, ne pas faire l'erreur de trop simplifier. Selon M. Lacoste, il faut parler à ses enfants comme on parle à toutes les personnes intelligentes. Oui, on livre un message de façon simple, mais pas de façon simplette. De son côté, Jason Long garde toujours ses notions en tête. C'est important de sensibiliser ses enfants au fait que l'argent ne tombe pas des arbres. C'est difficile de le gagner. D'où l'importance de réfléchir avant d'acheter quelque chose, d'épargner, mais aussi de profiter de cet argent durement gagné. Il faut profiter de la vie et c'est pour ça que c'est bon d'être intelligent avec son argent. En bref, les aider à développer une vision informée et équilibrée des finances personnelles. C'est un investissement très payant pour appuyer ses enfants dans la construction d'une belle vie. L'argent de poche, un bon outil. Le versement d'argent de poche est généralement considéré comme un bon outil pour permettre aux enfants de comprendre la valeur de l'argent et son fonctionnement. La somme donnée varie selon l'âge des enfants, les moyens de la famille ainsi que les dépenses qui incomberont à l'enfant. L'Association coopérative d'économie familiale, la CEF, Rimouski-Neigette et Métis, se mouille en donnant des chiffres pour avoir une idée de ce qui pourrait être raisonnable. Voici le guide qu'elle propose sur son site web. 6 ans et moins. 1 $ ou 2 $ occasionnellement. 6 à 10 ans, 3 $ à 5 $ par semaine. 10 à 12 ans, 5 $ par semaine pour débuter et augmenter graduellement à chaque anniversaire. 12-15 ans, un montant mensuel entre 35 et 100 $. L'argent de poche devrait-il être donné automatiquement ou en échange d'une participation aux tâches ménagères? Le sujet divise l'opinion. Pour certains, il y a un intérêt à associer l'argent obtenu à un travail accompli. Pour d'autres, il est hors de question de lier des tâches ménagères à une récompense puisqu'il s'agit simplement d'une responsabilité collective incombant à tous les membres de la famille. Certains trouvent un scénario au milieu où l'argent de poche de base peut être bonifié lorsque l'enfant accomplit des tâches facultatives comme le déneigement de l'entrée de cour. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Ça dépend de quelle valeur on veut transmettre, souligne la psychologue Nathalie Parent. L'important est surtout que le message soit clair. Il faut que les parents prennent le temps ensemble de s'assurer qu'ils sont d'accord sur le montant de l'allocation qu'ils veulent donner, ainsi que sur le sens de celle-ci, souligne-t-elle. Attention à l'anxiété. Parler d'argent avec ses enfants, c'est bien beau, mais ne risque-t-on pas de les rendre anxieux en abordant avec eux des sujets dont ils ne devraient pas avoir à se soucier? Explorons quelques conseils avec la psychologue Nathalie Parent pour éviter cet effet collatéral. D'entrée de jeu, dit-elle, si un parent n'est pas anxieux ou inquiet lui-même de ses finances, ça va aider. Apprendre à gérer sa propre inquiétude pour ne pas la transmettre, c'est un point de départ. Le but, quand on parle d'argent avec ses enfants, ce n'est pas de leur confier ses inquiétudes et de leur demander de l'aide. C'est de leur transmettre des connaissances utiles. Pour les aider à tempérer leurs désirs, on peut par exemple dire qu'un voyage coûte de l'argent pour que les enfants comprennent pourquoi c'est une occasion spéciale et qu'on ne peut pas en faire constamment. Ce n'est pas un propos anxiogène. Mais si on insinue à l'épicerie qu'on risque de manquer d'argent pour manger si on fait certains choix, que ce soit vrai ou non, cela pourrait créer de l'anxiété chez son enfant. Que faut-il surveiller comme signal d'alarme indiquant que ces conversations font naître des sentiments négatifs chez notre progéniture? On peut être attentif au non-verbal de l'enfant. Quand on parle d'argent, si on sent qu'il devient hyperactif, qu'il bouge plus ou qu'il change de pièce, ça peut être un signe. Il y en a qui vont faire des blagues ou changer de sujet, ça va nous permettre de voir qu'ils ne sont pas à l'aise, que quelque chose les dérange. Ils peuvent aussi faire des commentaires comme « demander si on va pouvoir fêter Noël ». Ça peut être subtil, mais laisser sous-entendre qu'il a peur qu'on n'ait pas assez d'argent, pas assez de sous, explique Nathalie Parent. Dans ce cas, on peut rassurer l'enfant en lui disant qu'on lui en parle pour l'éducation, pas pour qu'il s'inquiète ou qu'il nous aide. Éviter le sujet n'est pas la chose à faire. Avec l'anxiété, plus on évite un sujet, plus l'anxiété sera grande. Il faut plutôt l'affronter. On peut alors être à l'écoute, poser des questions, comme lui demander comment il trouve ça quand on parle d'argent, ce que ça fait. Il est aussi important de parler des rentrées d'argent, pas seulement des dépenses. Ainsi, l'enfant comprendra que oui, on dépense de l'argent, mais il y en a aussi qu'on gagne. Cette notion est sécurisante et lui permet de comprendre le lien entre le travail et l'argent. C'était « Faire de l'éducation à l'argent un jeu d'enfant », un texte de Camille Dauphinet-Pelletier, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse.
L'histoire du cancer en quelques moments clés. Un texte commandité paru le 25 novembre 2024 dans La Presse. Le cancer affecte les humains depuis la nuit des temps. Heureusement, les pronostics de survie sont beaucoup plus positifs qu'auparavant. Quels sont les événements marquants qui entourent son histoire et la découverte de ses principaux traitements? Voici un survol express de quelques moments marquants à cet égard. L'Antiquité, Le cancer est une maladie très ancienne. Une tumeur cancéreuse a notamment été identifiée par l'anthropologue David Freyer sur les os fossilisés d'un homme de Néandertal. Des écrits provenant des papyrus égyptiens exposent également des cas de personnes qui souffraient de cette maladie. Néanmoins, c'est véritablement le grec Hippocrate qui, au 5e siècle avant notre ère, a exposé les premières notions de cancérologie. Sa médecine, qui reposait sur la théorie des humeurs, soit le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme, dont l'équilibre concourait selon lui au bon fonctionnement de l'organisme, a attribué l'étiologie du cancer à un excès de bile noire. Cette thèse a d'ailleurs été reprise par d'autres savants, dont Galien, et circulée pendant des centaines d'années. C'est Hippocrate qui, en comparant les masses tumorales à un crabe, leur a donné le nom grec de carcinos. Du 16e au 17e siècle. Du 16e au 17e siècle, de nombreuses autopsies ont été pratiquées, ce qui a augmenté considérablement les connaissances anatomiques. Les découvertes qui ont été faites, en particulier par Gaspare Acelli et Jean Pequet au 17e siècle, sur le système lymphatique, ont ouvert la voie à une nouvelle théorie sur le cancer qui est venue remplacer celle d'Hippocrate concernant la bile noire. Plusieurs scientifiques de l'époque croyaient alors que cette maladie était composée de lymphes en dégénérescence. Parallèlement à cette approche, d'autres thèses se sont développées pour expliquer la carcinogenèse, dont celle qui affirmait que le cancer était une maladie contagieuse, ce qui a provoqué à l'époque le refus d'accueillir des personnes cancéreuses dans de nombreux hôpitaux. Du 18e au 19e siècle. Les progrès en matière de recherche sur le cancer, qui ont été faits au cours de ces deux siècles, sont associés au développement de l'anatomie pathologique. Cette spécialité médicale, qui étudie les lésions microscopiques des tissus humains, a permis d'obtenir des données de plus en plus précises sur l'anatomie. D'abord considéré comme une maladie générale de l'organisme, le cancer est, dès lors, devenu une pathologie locale, pouvant se disperser dans tout le corps. En outre, les travaux de certains scientifiques, Johannes Peter Müller et Rudolf Virchow, entre autres, ont contribué à l'élimination de la théorie des humeurs qui avait cours depuis longtemps, en affirmant que les cancers sont des masses cellulaires et non de la simple lymphe coagulée. Fin du 19e et début du 20e siècle. Plusieurs percées effectuées à ce moment-là ont marqué le début d'une nouvelle ère en médecine. La découverte, en 1895, des rayons X par le professeur de physique allemand Wilhelm Röntgen représente un progrès majeur. Ces rayons, qui permettent de visualiser l'intérieur du corps, constituaient à l'époque un tout nouvel outil pour le diagnostic du cancer. Ils ont ensuite été utilisés en 1896 par le docteur français Victor Despeignes pour soigner une tumeur maligne. Puis, en 1898, Pierre et Marie Curie ont découvert le radium, un élément chimique radioactif, ce qui a entraîné une véritable révolution dans le traitement du cancer. Tels sont les débuts de la radiothérapie, une méthode thérapeutique largement employée aujourd'hui pour détruire les cellules cancéreuses. Les années 1940. Des observations réalisées sur le gaz moutarde utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale ont mené à l'élaboration du premier traitement anticancéreux à base de substances chimiques. Des chercheurs américains ont en effet découvert que ce gaz détruisait presque tous les globules blancs des personnes qui y étaient exposées. Ils ont alors eu l'idée d'employer un dérivé de cette substance pour tenter d'endiguer la prolifération anarchique des globules blancs qui survient lors des leucémies. Cette découverte fortuite représente l'un des fondements de la chimiothérapie. Les années 1970 et 1980. Dans les années 1970 et 1980, des travaux scientifiques, en particulier ceux de Dominique Stehelin, Michael Bishop et Harold Elliott Varmus, ont mis en lumière une catégorie de gènes appelée oncogènes dont l'altération favorise la survenue du cancer. Cette découverte a transformé complètement la recherche sur cette terrible maladie. Les oncogènes sont aujourd'hui des cibles privilégiées pour le développement de nouvelles molécules anticancéreuses. Le gros avantage de ces nouveaux traitements, ils provoquent peu ou pas d'effets secondaires, contrairement à la chimiothérapie. Les années 1990. Dans cette décennie, des chercheurs, notamment James P. Allison et Tasuku Honjo, lauréat d'un prix Nobel en 2018, ont mis en évidence la possibilité d'utiliser le système immunitaire pour détruire des tumeurs malignes. Ils ont en effet identifié une protéine qui agit comme un frein moléculaire sur le système immunitaire. Cette approche, connue sous le nom d'immuno-oncologie ou d'immunothérapie des cancers, est aujourd'hui l'une des plus prometteuses en médecine, car elle a le potentiel de contrôler durablement des tumeurs considérées jusqu'à présent comme incurables. C'était l'histoire du cancer en quelques moments clés. Un texte commandité paru le 25 novembre 2024 dans La Presse.